Bienvenue dans l'Éclectique 15. Cette semaine, je vous donne des trucs et astuces pour pouvoir acheter en ligne de manière sécurisée. Je vous parle de livres, je vous parle d'articles, je vous parle d'applications et ça, toujours dans la bonne humeur. Allez, bonne émission. Bonjour et bienvenue à l'Éclectique numéro 15. Cette semaine, une petite émission, je vous le dis d'avance, ça devrait pas dépasser les 20 minutes, 25 minutes. Des soucis personnels font que je n'ai pas pris le temps de bien faire l'émission et puis je préfère vous donner ce qui est bien plutôt que de faire une émission plutôt bâclée et ou de ne pas en faire une parce que je veux m'astreindre à faire une émission aux deux semaines toujours à la même date. La régularité, c'est ce qu'on m'a demandé et c'est ce que vous allez avoir. Et puis au lieu d'avoir une émission pleine de choses vides, ben, elle va être petite mais un petit peu plus contenante. Ça se dit pas, ça se dit-tu? Non, un peu plus soutenante, un peu comme un repas. En tous les cas, cette semaine, d'achat en ligne. Comment faire pour apprécier votre expérience d'achat en ligne, des bons trucs pour ne pas vous faire avoir ou vous faire fourrer en québécois. Je vais vous parler aussi de Chris Hadfield, l'astronaute. J'ai lu son livre. Ben, j'ai presque fini de terminer son livre. C'est mieux dit. Je suis son Twitter. Tout ça, je vais vous parler de Chris Hadfield, qui est vraiment cool. Si vous aimez l'espace, je vais vous donner aussi des petits liens intéressants là pour pouvoir aller voir des photos, pour pouvoir savoir quand la station internationale est en haut et pas loin, où vous pouvez la voir avec un télescope. Ça, c'est très cool. Je vais vous parler d'applications. Oui, je suis en bêta test avec Pocket, avec des nouvelles fonctionnalités. En tout cas, une grosse nouvelle fonctionnalité pour Pocket. Alors ça, je vais vous en parler aussi. Je vais vous parler aussi d'un podcast que j'apprends à adorer, que j'apprends à aimer, que je débute à commencer d'apprendre à quelque chose. En tout cas, un très bon podcast que je vais vous recommander à la fin de l'émission. Et puis, ben, ça va faire le tour pas mal de l'Éclectique numéro 15. Et on commence maintenant. Comment faire des achats en ligne et apprécier cette expérience? Récemment, ma conjointe a fait des achats en ligne et puis, grosso modo, ça s'est plus ou moins bien passé parce que, d'abord, le site, il n'y avait pas le minimum requis technique et je vous l'expliquerai ce que c'est pour lui faire confiance. Le site, finalement, c'était un site de copie, de la marque que ma conjointe voulait acheter. Et puis, finalement, quand elle a demandé un remboursement, ben le marchand s'est gardé un pourcentage de frais administratifs, comme on pourrait dire. Alors, l'expérience a été vraiment de la merdique pour elle. Puis c'est triste parce que moi je l'aime puis j'aime ça quand elle a des belles expériences dans la vie. Et puis ça m'a inspiré ce petit guide d'achat en ligne. D'abord, j'ai fait travailler un peu la communauté pour ce petit guide-là. J'ai fait travailler la communauté. J'ai été sur Twitter puis je leur ai demandé quels sont vos trucs lorsque vous voulez faire des achats en ligne pour pas vous faire arnaquer. Hein? Avez-vous des indices? Alors, il y en a qui sont fatalistes, comme Michael Matti qui dit « Moi, je me croise les doigts » ou Philippe Alboui qui dit « Oh, moi, quand je veux pour me faire arnaquer, il suffit que j'ai trop envie d'un truc. » Bon, alors, mes chers amis, je vais vous révéler ma technique des 4 R pour plus vous ayez cette crainte-là lors des achats en ligne. Les 4 R, c'est quoi? Ça commence par la réputation des sites. La réputation du marchand en ligne sur lequel vous êtes, est-ce qu'il a une bonne réputation? C'est un des trucs que vous devez faire dans les premières étapes avant d'acheter, c'est est-ce que le site a des bonnes réputations? Des fois, ben on dit techniquement, il y a ci, techniquement, il y a ça, il offre PayPal, OK, c'est beau, j'achète. Mais ouais, mais est-ce que en bout de ligne, il y aurait pas quelqu'un d'autre avant toi qui a acheté puis que finalement, ça s'est avéré très mauvais, sur lequel tu pourrais te fier ou pas? Hein, des fois, ça peut être... Les avis, faut prendre ça avec modération. Là. Je me rappelle TripAdvisor, les restaurateurs. Il y a un groupe de restaurateurs italiens qui avait fait un faux profil de restaurant. Il me semble que c'est ça l'histoire. Avait fait un faux profil de restaurant sur TripAdvisor, avait fait des fausses notes pour prouver que TripAdvisor vérifie pas en réalité si finalement, en bout de ligne, le restaurant existe. La base, là, dans le fond. Alors, La réputation, ça fait partie des 4 R. C'est mon premier. Vérifier la réputation de ce restaurant-là, de ce commerçant-là. Alors moi, j'utilise MyWOT, MYWOT.com. Il y a un petit plugin où là, les gens mettent la réputation du site, leur expérience d'achat en ligne, si le site est là depuis longtemps. Ça donne une note qui est basée sur plusieurs variables. Est-ce que le site existe depuis longtemps? Est-ce que les gens sont satisfaits? Et ainsi de suite. Puis ça vous donne une note sur laquelle vous pouvez vous fier ou ça vous donne une idée. Évidemment, dans la réputation, vous allez le googler. Ça peut être intéressant de voir ce qui va ressortir. Sur Twitter ou Facebook, vous pouvez aussi, vous le savez pas, mais vous êtes pas unique. Y a beaucoup de gens, des fois, qui ont peut-être une expérience d'achat avec ce commerçant-là, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous référer. Ça, c'est certain. Et puis, un autre truc intéressant, c'est le WHOIS du nom de domaine. Le WHOIS, c'est en fait, depuis combien de temps ce nom de domaine-là existe? Alors, vous avez juste aller dans Google, vous tapez WHOIS, W-H-O-I-S, et vous mettez l'URL du site web en question. Vous allez voir depuis combien de temps le site existe. Dans le cas de ma conjointe, quand elle a acheté sur le site marchand, ça faisait 2 mois que le site existait. Donc, il n'y avait pas assez de recul pour dire, j'y fais confiance. Alors, Arius... Arius sur Twitter dit « Regardez les reviews des vendeurs. En général, achetez toujours sur la même plateforme. » Guillaume Vendée sur Twitter dit « Je vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. » Ben, ça fait partie de la réputation aussi. Des fois, effectivement, le site est bien fait, bien monté, mais c'est un peu tout croche comment les descriptions sont faites des produits. C'est un peu tout croche comme un peu tout, les reviews, les photos, faites attention à ça. Alors, le premier R de la technique des 4 R, c'est la réputation. Le deuxième R, c'est rejoindre. Est-ce qu'il est simple de communiquer avec le marchand? Est-ce qu'il y a un module de chat en ligne, direct? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Essayez de communiquer avec lui. Si la réponse se fait tarder juste au moment où l'achat se déclenche, imaginez quand vous allez avoir des problèmes. Ça va vous donner aussi une indication par rapport à ça. Généralement, un marchand met beaucoup d'efforts pour vendre, ça arrive, là, les bons qui mettent autant d'efforts dans les deux côtés, mais généralement, tout ce qui est retour, communication, quand ça se passe mal, c'est un peu plus long ou un peu plus pénible. Alors, vous pouvez facilement en déduire que si ça va mal pour juste acheter, imaginez pour quand ça va être le moment de redonner. Dans la communauté Twitter, il y a Didi Cartman sur Twitter qui dit « Je le contacte pour comprendre leur business si leurs promesses correspondent à une réalité. » Exactement. Est-ce que c'est vrai ce que tu affiches? Est-ce que le prix est le bon? Michael Paquet sur Twitter, il dit « Posez quelques questions pour voir si le vendeur connaît ses produits et quels sont les délais de réponse. » C'est exactement ce que je disais. Posez-lui des questions sur le produit. Ça peut être toujours intéressant. C'est sûr que si vous achetez une coque de téléphone sur eBay à 2,50, vous appliquez pas tous ces trucs-là, mais si vous achetez, exemple, un produit avec une certaine valeur, ben ça peut être bon de faire tous ces trucs-là. Alors, premier R de ma technique des 4 R, réputation. Deuxième, rejoindre le vendeur. Troisième R, c'est la rétribution. Est-ce que c'est simple de payer avec lui? C'est sûr que, je vous dirais, je privilégie des plateformes où on peut payer avec PayPal ou Google Wallet, ou même maintenant, il y en a beaucoup avec le portefeuille d'Amazon qu'on peut acheter. Je privilégie ça parce que j'ai une tendance à pas vouloir trop donner mon numéro de carte de crédit à tout le monde. Parce que je sais pas en bout de ligne comment ils le stockent en arrière, comment ils le sauvegardent, qu'est-ce qu'ils en font après. J'aime pas ça que quelqu'un détienne mon numéro de carte de crédit. J'avoue faire plus confiance à PayPal, à Google Wallet, à Amazon qu'à un marchand tout seul. Honnêtement, c'est un peu ça. Si vous pouvez, avant des fois, là, dans un site qui vous paraît un petit peu louche, il y a beaucoup de sites qui génèrent automatiquement des numéros de carte de crédit aléatoires. Essayez de voir si ce marchand-là accepte les cartes de crédit aléatoires. Si vous avez vraiment un doute, c'est ce que ma conjointe aurait dû faire. Ça va vous donner une indication. Ça va vous donner une indication que des fois, ça arrive malheureusement assez souvent sur Internet qu'il y a des sites qui sont bâtis uniquement pour recueillir des numéros de cartes de crédit. Et puis, c'est des faux sites marchands, mais ils vous font croire que la transaction s'est bien déroulée, puis après ça, le site disparaît. Alors, ça peut être un truc aussi, souvent, un petit peu de doute. Sinon, vous pouvez aussi, certains fournisseurs de cartes de crédit offrent le moyen d'un numéro temporaire pour une transaction. Alors là, vous pouvez aller sur le site de votre carte de crédit, vous lui dites, je veux faire une transaction d'un montant de 60 $, peux-tu me générer un numéro de carte de crédit temporaire le temps que je fasse ma transaction? Ça, je trouve ça super cool. Vous pouvez aussi vous procurer des cartes de crédit temporaires. Ici, en Amérique du Nord, il y en a beaucoup, Mastercard, Visa font ces choses-là. Aussi, les gens ne le savent pas, vous irez voir mes capsules là, pour utiliser des sites sensibles. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre votre nom, prénom hein, dans les formulaires de carte de crédit. Vous pouvez mettre n'importe quoi parce que, dans le fond, la validation se fait uniquement sur la carte de crédit, le numéro d'expiration et le CVV, le numéro unique en arrière de votre carte de crédit. Alors, pas nécessairement obligé de mettre votre vrai nom dessus. Surtout si vous avez un petit doute sur le site, faites attention une fois que vous avez appliqué ces petits trucs-là. Techniquement, ben, y a des choses aussi à vérifier. Est-ce que minimalement le site qui va recueillir vos données est en HTTPS? HTTPS, c'est pour le protocole de transfert, mais de transfert de page web, dans le fond, mais sécurisé. Chaque page est encryptée sur le fil. Alors, ce qui fait que si vous faites ça dans un cybercafé, et je vous déconseille de faire ça dans un cybercafé ou dans un lieu public, des achats, vous faites jamais ça là, mais si vous n'avez pas le choix, minimalement, faut qu'il y ait de l'encryption entre vous et le serveur marchand. Et puis, mais vous savez, minimalement, faut qu'il y ait ça, mais s'il y a ça, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bien fait. Alors, il faut qu'il y ait, c'est un autre indice, mais c'est pas avec juste cet indice-là que vous allez pouvoir vous dire que ça y est, l'affaire est dans le sac, j'ai acheté mon produit. Nicolas Stoffel sur Twitter dit « Je regarde aussi le mode de paiement proposé. PayPal offre, hein, par exemple, la garantie en cas de problème. » Exactement. Les marchands comme PayPal, qui sont transitoires entre votre carte de crédit et le marchand, ben, offrent la possibilité d'ouvrir des litiges, ce qui vous permet notamment de bloquer le paiement, de vous faire rembourser plus facilement si c'est un site, s'il y a une mésentente avec le marchand. Alors, mes quatre R, on a fait le premier R, réputation, rejoindre le marchand, la rétribution, et puis un autre et un des plus importants. En fait, c'est sur ça qu'on doit baser son expérience. C'est sur ça qu'on voit les bons marchands, les bons commerçants. Le remboursement et le retour. Comment s'occupe-t-il du remboursement? Est-ce que le retour est payant? Est-ce qu'ils l'ont indiqué sur le site? Est-ce qu'il y a la procédure pour le faire sur le site? Tout ça sonne pour moi. En fait, tout ça est pour moi une super bonne indication que le marchand est sérieux. S'il a prévu un processus de retour, s'il vous indique à l'avance combien ça va coûter, et s'il y a déjà les formulaires et ainsi de suite, ben, c'est déjà une indication que le commerçant, le marchand en ligne en question est quand même soucieux que l'expérience utilisateur soit bonne du début jusqu'à la fin, même si la finalité n'est pas forcément que vous ayez votre produit, que vous soyez satisfait, mais que vous ayez retourné le produit. C'est aussi une finalité dans une transaction. Alors, ça fait partie, c'est mon quatrième R essentiel. Faites attention à ça, c'est une autre indication que ça devrait bien se passer quand il a prévu la dites-vous que quand un marchand a prévu le processus, quand ça se passe mal, ça veut dire que généralement ça va bien se passer. Bon, dans la petite histoire de ma conjointe, je dois vous dire que sur le site, elle m'a dit, quand je lui ai demandé, est-ce que c'était sécuritaire là où t'as fait ta transaction, est-ce que c'était ci, est-ce que c'était ça, elle m'a dit, ben oui. Il y avait un logo Norton, ben oui, il y avait un logo McAfee, sécurité, validée, tout ça. En vérifiant, moi, plus précisément sur ce site marchand-là, c'était juste des images. Hein. Il y avait aucun lien par rapport à GeoTrust, il y avait rien par rapport à McAfee ou Norton, c'était juste des images pour faire beau. Ne vous fiez pas aux apparences. Alors, j'espère que cette capsule va vous avoir aidé à faire confiance ou comment commencer à faire confiance à des marchands en ligne pour ne pas vous limiter et pour continuer à acheter, parce que dans le fond, le commerce ou la consommation devient de plus en plus importante en ligne. Et puis, ben, faut pas se priver de ça. Combien de personnes je vois maintenant dans les librairies dire « Ah, comment je vais faire pour trouver un livre qui peine? Ah, je veux pas l'acheter en ligne », puis qui se prive en bout de ligne de pas acheter un livre parce que c'est en ligne. Faites pas ça, s'il vous plaît. Il y a des moyens en ligne de faire confiance. Et puis, je vais vous arriver avec ma petite expérience personnelle. Je me suis fait déjà souvent pirater ma carte, moi, mais pas en ligne, dans des vrais commerces physiques, où il y avait des faux scanners de cartes bleues pour les Français ou de faux scanners de cartes de crédit, où il y avait un espèce de dispositif sur les guichets pour sniffer mon numéro de carte de crédit, sniffer des informations. Alors moi, Et ça veut pas dire que je vais jamais me faire pirater en ligne. Mais ce que je veux juste mettre en parallèle, c'est que moi qui achète beaucoup en ligne, ben les fois où je me suis fait pirater, c'était dans du monde réel, ce qui n'exclut pas le fait qu'en ligne vous vous fassiez pirater, mais je veux juste vous rappeler qu'aussi en réel, vous pouvez vous faire pirater. Alors, achetez en ligne, appliquez ma technique des 4 R, et puis ben merci à la communauté d'avoir participé à cette petite capsule. J'aimerais vous partager une belle petite découverte en matière de podcast que j'ai fait. Ça fait maintenant plusieurs semaines, mois même. Un podcast de l'ami Yves. Le podcast s'appelle « Ça vient de là ». C'est un podcast qui parle des origines des objets, des expressions et des coutumes. Et puis, je dis l'ami Yves parce que c'est un poditeur de Nip Life, en tout cas tous les podcasts qu'on peut connaître et puis qui échangeait beaucoup avec moi sur Twitter. Ben, il s'est lancé. Un beau petit podcast. Et puis Yves, pourquoi que je l'aime particulièrement? Parce qu'il habite chez moi au Canada. Oui, c'est un Alsacien, ostéopathe au Canada. Vous voyez un petit peu le genre un petit peu éclectique du bonhomme? Ben son show est pareil. Et puis c'est ça qui fait qu'il est excellent. C'est que vous allez apprendre des choses différentes. Il va vous présenter des définitions. Il va vous présenter des coutumes. Il va vous présenter des expressions. Tout ça de manière très ludique, avec un montage, et chapeau Yves, ton montage audio que tu fais doit te prendre une sacrée blinde de temps, parce que c'est excessivement bien réussi, contrairement à ce que je fais, j'en suis très jaloux, mais Yves, ton podcast est vraiment cool, allez l'écouter, je vous le recommande, des définitions, des us et coutumes de pays qu'on a, vous allez apprendre plein de trucs, et puis c'est ça qui est cool, c'est quand on apprend des choses complètement différentes par rapport à ce qu'on s'y attend, quand on s'y attend pas, ça j'aime vraiment ça. Bravo, un beau petit podcast à écouter. Ça vient de là. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pocket. Qu'est-ce que c'est Pocket? Pocket, c'est une application, c'est un environnement. En fait, c'est un système qui vous permet de lire des articles, des billets de blog, des choses que vous avez trouvées sur Internet de manière épurée et de sauvegarder les articles de manière épurée et de pouvoir les lire quand bon vous semble. Alors, ça vient avec un écosystème assez vaste d'applications sur toutes les tablettes, téléphones et ainsi de suite intelligentes de ce monde. Ça vient aussi avec un écosystème de plugins que vous pouvez mettre dans vos furteurs pour sauvegarder des articles, des billets de blog à plus tard. Ça vient aussi avec... toutes sortes de d'arrimages avec des applications existantes du genre si vous avez Feedly exemple un lecteur de RSS vous avez certainement un bouton pour envoyer les articles à lire plus tard dans l'application Twitter exemple vous pouvez aussi dès que vous trouvez un lien qui vous intéresse appuyer sur le lien assez longtemps pour le sauvegarder dans Pocket pour lire plus tard. Vous comprenez un peu l'idée, c'est que dès que vous trouvez un article, indépendamment du lieu, du système sur lequel vous êtes, vous avez moyen de sauvegarder cet article-là pour le lire plus tard. Le lire plus tard, c'est aussi le lire à des moments qui vous conviennent le plus pour pas bloquer votre processus. Je m'explique. Moi, des fois, quand je travaille, je tombe sur des articles assez intéressants qui ont pas lieu d'être sur mon travail, alors je les garde dans mon Pocket pour pouvoir les lire quand je vais avoir le temps ou quand ce sera le bon moment pour pas couper mon processus de travail. Fait qu'au niveau productivité, c'est vraiment super intéressant. Au niveau des liseuses, si vous avez une Kobo, il y a une belle intégration avec Pocket dans les liseuses Kobo, c'est que vous pouvez lier votre compte Pocket à votre liseuse Kobo et tous vos articles vont être téléchargés sur votre liseuse. Ça, c'est absolument génial. Vous avez aussi une intégration avec le fameux service populaire IFTTT pour pouvoir faire des recettes de Pocket. Alors, vous pouvez faire des recettes du genre, dès que je trouve un article, dès que je mets un article dans Pocket à mes favoris, fais telle autre action. Alors, vous voyez un peu, Pocket est très, très, très ouvert et très, très, très partagé et très, très, très utilisé un peu partout. Pocket dernièrement a fait des mises à jour, en tout cas essaye d'améliorer son sort en termes de plateforme. Alors non seulement on pouvait lire plus tard les articles, il y a une fonctionnalité sur iOS qui est super intéressante, c'est-à-dire de vous lire l'article, vous appuyez sur le bouton lecture et là il y a une voix synthétique, plate, triste, mais des fois c'est super intéressant parce que vous pouvez pas avoir l'attention requise de lire un article, alors vous démarrez ce bouton-là, cette fonctionnalité-là de lire automatiquement l'article et là vous allez avoir une voix synthétique, pas tout le temps plaisante soit, mais au moins vous allez pouvoir entendre l'article. Ben là, ils ont fait... moi, j'ai fait partie des bêta-testeurs, et puis là, la version est sortie avec les recommandations. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un nouvel onglet qui est dans votre pocket sur la plateforme iOS. Je sais pas sur Android, par contre, probablement aussi. Qui vous permet tout simplement d'avoir des recommandations d'articles. C'est la curation d'articles, et c'est le nœud de la guerre en ce moment de ces plateformes-là. Et Pocket a quand même bien sorti son épingle du jeu avec cette application-là parce qu'il me recommande beaucoup d'articles qui sont en lien avec mes lectures précédentes. Alors, je sais pas comment l'algorithme est basé, mais je trouve beaucoup d'articles intéressants. Le problème là-dedans, dans ces curations d'actualité en fonction de ce que vous avez déjà consulté, c'est que ça vous apporte pas des nouveautés, ça vous ouvre pas de nouveaux horizons vers des nouveaux sujets. Toutefois, ça vous évite de rechercher des sujets qui vous intéressent. Alors, moi, je vous recommande fortement, vous l'aurez compris, Pocket, l'utilisation de Pocket. Moi, j'ai pas la version premium, j'ai la version gratuite. Elle fait amplement l'ouvrage. J'ai la liseuse Kobo qui fait que je peux voir tous mes articles. Et puis, je vous ai fait une petite recette que je vous mettrai dans les notes d'émission, une recette fort simple. Moi, j'aime beaucoup Medium, puis je vais en parler dans une autre capsule. Et puis, j'ai fait une recette qui, dès qu'il y a un nouvel article de Medium France, qui fait une curation des articles français Medium intéressants. Dès qu'il y a un nouvel article intéressant ou un billet de Medium, ça l'envoie directement dans votre compte Pocket, ce qui vous donne une base de lecture dans Pocket. Puis après ça, vous allez pouvoir installer les plugins si vous aimez. Vous allez pouvoir installer toutes sortes de fonctionnalités qui vont remplir votre Pocket. Faites attention. Pocket, vous pouvez aussi classer par tag. Je vous le recommande si vous commencez à en mettre énormément d'articles là-dedans. C'est pas une sauvegarde de fichiers, c'est réellement une sauvegarde de billets, de blogs, d'articles sur Internet. Utilisez seulement à cet effet-là, parce que c'est là où il est fort. Pour le reste, au niveau du classement et tout ça, c'est un petit peu bric-à-brac. On peut y aller avec des tags, mais pour le reste, la sauvegarde d'articles pour lire plus tard, il le fait très, très bien. C'est le meilleur selon moi. J'ai essayé Read It Later, j'en ai essayé plusieurs autres. Et Pocket a une super belle intégration avec un bel écosystème. Alors, je vous recommande fortement Pocket. Une autre application super intéressante que je voulais partager avec vous, c'est Curator, C-U-R-A-T-O-R. Ça vous permet de regrouper des idées sur une même planche. Je m'explique. Curator, c'est des suites de planches quadrillées. Alors, c'est des suites de tableaux quadrillés avec des petites cellules dans lesquelles vous allez pouvoir incorporer des idées. Alors, quand vous rentrez dans Curator, vous avez toutes vos planches. Alors, vous swipez de droite à gauche pour changer d'une planche à une autre. Et puis, quand vous choisissez une planche, vous tapez dedans et là, la planche se met plein écran. Ça vous représente une grille, une simple grille tout à fait banale, dans laquelle vous allez pouvoir mettre des éléments d'information dans chacune des cellules. Alors, vous pouvez mettre des éléments de type image, vous pouvez mettre des éléments de type texte et des éléments de type site web, miniature de site web. Alors, pour une planche, vous allez pouvoir mettre toutes sortes d'éléments là-dedans, sous un même thème, comme je le disais. L'idée étant que visuellement, vous allez avoir rapidement, en un coup d'œil, pour un seul et même thème, tous les petits éléments dont vous voulez parler ou dont vous voulez vous souvenir. Alors, ça a beaucoup d'avantages. Moi, l'usage que j'en vois, c'est vraiment pour des gens qui font des présentations. Premièrement, vous pouvez mettre toutes vos slides dans une planche Curator, et cette planche-là va vous permettre de swiper entre les éléments pour voir en un coup d'œil toute votre présentation. Ça, c'est le premier code type dont Curator en mentionne souvent. Vous pouvez aussi tout simplement regrouper des idées pour un projet. Exemple, vous voulez écrire un livre ou écrire un article, ou tout simplement vous avez une idée de décoration. Ben, avec Curator, vous allez pouvoir, dans une planche, mettre toutes les idées pour une décoration. Exemple, un décorateur qui a une idée de plancher, qui a une idée de couleur, qui a une idée de texture, qui a une idée... Ben, c'est un peu ce qu'ils font quand ils vous présentent des plans d'architecture ou de décoration. Ben, Curator, c'est exactement la même chose. Ou, par analogie, les photographes, vous savez qu'ils vous présentent une planche contact avec toutes les petites photos les unes à côté des autres pour que dans un coup d'œil, vous puissiez voir et choisir et sélectionner les photos qui vous intéressent. Ben, Curator, c'est exactement ça. Ça vous permet de faire une planche d'idées. Alors, cette planche d'idées-là, comme je disais, vous pouvez mettre des miniatures de sites web. Vous mettez tout simplement, vous copiez-collez l'URL dans une cellule et automatiquement, il va aller faire la petite miniature du site web. Vous pouvez mettre un mot, un texte au complet, mais c'est sûr que l'idée, c'est de le voir rapidement en un coup d'œil. Fait qu'un texte, ça se lit plutôt mal. Je vous dirais
voulait une petite phrase ou un petit mot pour une idée, une photo tout simplement aussi. Ça vient aussi avec des outils d'édition pour les photos, pour les recadrer, les découper. Ça vient aussi avec quelque chose de très, très intéressant et que j'ai jamais vu, une importation à partir Pinterest. Alors, vous allez pouvoir importer ou faire des recherches sur un sujet type sur Pinterest qui vous intéresse ou sur votre propre compte, et ça va importer tous les pins directement sur une planche. C'est une autre idée, une autre façon de regrouper l'information pour un usage de présentation, pour un usage très, très visuel, à contrario avec Evernote qui, lui, où vous mettez des notes et puis c'est très textuel. Je vous dirais que Curator peut avoir un usage super intéressant pour des représentations graphiques ou pour avoir une idée générale visuelle rapide. Alors, je vous recommande Curator. Ah oui, il y a une version premium. Moi, j'utilise la version gratuite. Elle fait très, très bien. Vous pouvez la synchroniser entre votre tablette et votre téléphone. C'est seulement aussi, oui, je dois le mentionner, c'est seulement sur iOS. Fait que, désolé pour ceux qui ont Android. La synchronisation est vraiment marche du feu de Dieu. Là, c'est époustouflant. Vous mettez un élément dans la cellule, automatiquement, elle se retrouve sur votre autre device, sur votre autre appareil. Alors ça marche super bien. Et il y a une exportation possible à faire en PDF. Si vous voulez avoir une exportation très haute qualité à ce moment-là, faut aller avec la version premium qui, elle, coûte 5$ par mois ou à peu près 50, ils vous font un rabais là, 55$ pour l'année ou 50$ par année. Alors, à essayer la version gratuite, et puis si vous en trouvez un usage vraiment professionnel et puis que vous voulez synchroniser plus d'éléments, vous voulez avoir de la meilleure haute qualité quand vous faites des exports en PDF, ben peut-être envisager la version premium. Parlons d'espace et d'astronautes. Et de Chris Hadfield, parce que je suis en train de lire son guide d'un astronaute pour la vie sur Terre, écrit par Chris Hadfield. Et puis pourquoi c'est cool, Chris Hadfield? Parce que Chris Hadfield, là, d'abord, il est Canadien. Mais c'est pas juste pour ça qu'il est cool. Non, c'est parce que il a fait plusieurs missions dans l'espace. Et puis dans sa dernière mission, il est devenu très 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 célèbre parce que il tweetait beaucoup. Il a utilisé beaucoup les médias sociaux lors de ses dernières lors de sa dernière mission dans l'espace. Et puis c'est de là sa renommée. Du fait qu'il est un astronaute qui s'est démarqué un peu plus des autres. Bon, il a pas fait juste ça, il a fait un livre, c'est aussi un musicien, vous irez écouter, c'est ce qui, il va sortir un album ou vient tout juste de sortir un album sur iTunes. Il a ici aussi un frère qui fait de la musique pas juste sur iTunes, qui fait de la musique tout court. C'est dans le registre un peu country, fait que si vous aimez un peu ça, vous allez l'apprécier. C'est toujours très très joyeux. Parlant musique, il a fait aussi un duplex à partir de la station internationale. C'était pas la première fois que ça arrivait, mais pour nous au Canada, c'était la première. Un duplex en direct de la station internationale en chantant avec un des chanteurs du groupe Barenaked Ladies, mon groupe préféré. Et puis, il a fait un duplex avec plusieurs chanteurs de toutes les provinces du Canada. Un défi assez technique, assez impressionnant. La chanson est très bonne. Vous pouvez faire une recherche sur Google. Chris Hadfield, Barenaked Ladies, CBC. C'était passé sur la chaîne de Radio-Canada en anglais. Alors, en gros, ces dernières choses qu'il a fait en public là où on, bon, tous les cas pour lesquels on a parlé de lui, mais il a fait aussi un livre, guide de l'astronaute pour la vie sur Terre. Parce que avant tout, ce qu'on apprend dans son livre, et puis c'est pour ça que j'en parle dans l'Eclectic Show, c'est que ben un astronaute c'est pas mal plus souvent sur Terre que dans l'espace. Un astronaute c'est pas mal plus souvent en préparation que dans l'espace. Un astronaute c'est pas mal plus dans l'anticipation des choses que dans la réalisation. Puis c'est là que c'est intéressant son livre, et c'est cet aspect du livre que j'aimerais vous relayer, qui a plus attrait à du développement personnel, mais des bonnes pratiques de vie qui sont super intéressantes, surtout aussi beaucoup de motivation. Il a une façon particulière de voir les choses qui est très intéressante, puis qui laisse songeur, qui va vous faire réfléchir. Et puis je vous le recommande chaudement, son livre. Je vous rappelle, vous pouvez voir, ça s'appelle Le guide d'un astronaute pour la vie sur Terre, et puis vous allez apprendre des choses excessivement intéressantes sur ce gars-là. Aussi, vous irez voir sur son fil Twitter, il est vraiment vraiment très drôle. Un des derniers tweets qui m'a fait très rire, puis qui a aussi un peu un lien avec l'Eclectic Show, il y a une distillerie japonaise qui va envoyer dans l'espace des toutes
plusieurs sortes de whisky pour voir comment le whisky vieillit en apesanteur. Et puis, ben, Chris Hadfield a relayé cette information-là pour vous montrer un peu le bonhomme. Et puis, il a mentionné que c'est là qu'on va enfin voir la dureté du mental, comme on dit, en fait, le sérieux du travail d'un astronaute, c'est-à-dire de ne pas toucher aux échantillons. C'était vraiment très, très drôle. C'était vraiment mieux dit sur son fil Twitter. Vraiment, allez le voir, écoutez, allez le lire. Vraiment un très, très bon livre. Vous pouvez acheter sans hésiter. Très inspirant. C'était ma chronique inspiration de cette semaine. Guide d'un astronaute pour la vie sur Terre de Chris Hadfield. Catégorie geek encore. Je sais que ça vient pas de sortir. Je sais que ça fait un petit bout de temps que ça existe. Je vais vous parler de Medium. Medium, c'est quoi? C'est une plateforme de blog, mais des blogs un peu plus recherchés, un peu plus épurés, où on se concentre plus sur l'information que sur la forme. Vous savez un peu mon souci que j'ai en ce moment d'améliorer le fond plutôt que la forme du podcast. Ben, c'est un peu dans la même lignée avec Medium. Medium, c'est une plateforme qui a été développée par nos amis. Je regarde mes notes. Ben, Evan Williams, rien que lui, et Beastone. Ça là, c'est ceux qui ont juste participé à Twitter, c'est juste ceux qui ont participé à Blogger. Pour ceux qui connaissent, c'est pas des n'importe qui. Medium, c'est une plateforme de blogging, comme je disais, qui se concentre plus sur le blog, qui se concentre sur le mot, sur le fond, sur le texte en fait, et pas sur la forme. C'est excessivement simple d'éditer un texte là-dedans. C'est aussi excessivement simple et particulier de mettre des commentaires. Je trouve ça cool. C'est que vous pouvez mettre des commentaires sur des bouts de texte. Alors, oui, il y a des plugins qui existent dans WordPress, tout ça, mais ça, je trouve ça bien, parce que dans un passage en particulier d'un texte, on peut émettre un commentaire, et puis c'est assez fluide pour le lecteur de voir les commentaires au fur et à mesure du texte. Ça, je trouve ça bien. Au lieu d'aller en bas pour voir tous les commentaires d'un blog post ou d'un billet, au fur et à mesure de la lecture, vous pouvez voir les commentaires émis des personnes. Ça, de un, c'est super bien. La plateforme est simple et belle. Faut trouver, c'est un peu plus touché, faut trouver les gens qui écrivent bien, les gens qui relaient de la bonne information, bien recherchée, chercher avec des références. Moi, je vous suggère de suivre Officiel France de Medium, qui relaie des bons blog posts une fois par jour à peu près, un bon billet, toujours un peu différent, hein, toujours dans l'idée éclectique d'avoir des sujets un peu diversifiés. Ben, Officiel France va vous relayer des bons blog posts de personnes. Officiel France, ce que j'ai compris aussi, paye certaines personnes pour traduire en français des blog posts très très populaires en anglais à la langue française. Alors c'est vraiment cool. Je vous ai préparé dans les notes de l'émission, vous allez voir, je vous ai préparé une petite sauvegarde pour faire un lien entre le test de Pocket et puis Medium. Je vous ai fait préparer une petite recette qui va vous mettre automatiquement tous les nouveaux articles qui sont relayés par Officiel France de Medium, pour les mettre automatiquement dans votre compte Pocket pour que vous ayez des choses à lire puis des choses intéressantes. Alors ça, c'est cool. Et puis allez tester, allez lire sur Medium. J'aime vraiment vraiment de plus en plus cette plateforme. Je sais, je viens de me réveiller, ça existe depuis un bout, oui, mais j'avais pas pris le temps de le faire et là j'ai pris le temps et c'est vraiment vraiment cool Medium. Je vous relaye aussi un texte d'un blogueur professionnel qui a commencé à faire ses pas sur Medium et puis qui vous donne un peu son point de vue, son test, comment ça fonctionne. Alors vous allez avoir à peu près je vous relaie l'article de la personne qui a testé Medium, qui est un peu plus professionnel que moi, et puis je vous relaie aussi la petite recette automatique IFTTT qui va vous mettre des bons petits articles dans votre compte Pocket. J'ai terminé dernièrement sur Netflix. Bon, là, c'est un peu moins tech, mais vous allez aimer ça. C'est des séries, c'est cool. La télésérie Narcos, qui retrace la lutte acharnée des États-Unis et de la Colombie contre le cartel de la drogue de Medellín, l'organisation la plus lucrative et impitoyable de l'histoire criminelle moderne. En multipliant les points de vue de policiers, de politiques, judiciaires, de personnel, la série dépeint l'essor du trafic de cocaïne et le bras de fer sanglant engagé entre les narcotrafiquants qui contrôlent le marché avec violence et ingéniosité. Bon, ça, c'était le descriptif de la série. Je vous la recommande fortement. Elle est vraiment excessivement bonne. En plus, elle a un caractère historique avec Pablo Escobar, le grand baron de la drogue de Colombie. La première saison laisse entrevoir qu'il va y en avoir une deuxième. Alors, pour ceux qui veulent avoir une série puis s'approprier des personnages sur plusieurs années, ben vous allez probablement être contents avec Narcos. Très bien fait. Tout tourné en Colombie. Des beaux paysages, vous allez voir, c'est malgré l'histoire là, qui c'est somme toute excessivement triste, les paysages sont très beaux, ça laisse entrevoir, ou ça laisse le goût d'aller peut-être en Colombie, peut-être pas dans ces années-là, mais maintenant ça doit être réglé tout ça, tout le problème. Vraiment une très 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 bonne télésérie, Narcos, Narcos, sur les trafics de drogue, les enquêtes policières. C'est pour ceux qui aiment ça, avec un petit côté historique là où on voit des archives de documents, des vieilles photos, c'est vraiment excessivement bon. C'est sur Netflix. Bravo Netflix de faire des super téléséries.
Je vais vous parler aussi d'une application sur Windows. Cette fois-ci, à partir de Windows 7, ça fonctionne, Windows 7, 8 et 10. Ça s'appelle Snip. C'est encore en version bêta. C'est une application qui vous permet de faire des imprimes écrans facilement. Bon, à date, il n'y a rien de nouveau. Il y en a plein d'applications qui le font. Elle a la particularité de pouvoir faire l'imprime écran, par la suite d'annoter des choses. Ah, là, quand même, ça devient intéressant. Et d'annoter des choses de manière séquentielle avec une espèce d'enregistrement. Alors, si vous faites une présentation d'un élément graphique, et puis dans cet élément, vous voulez, de manière séquentielle, attirer l'attention sur un élément, ensuite un autre élément, ensuite un troisième élément, ben Snip est fait pour ça. Il va vous exporter votre imprime écran en format image, ou si vous avez fait des annotations type vidéo, il va vous le sortir en MP4. Les avantages de cette application-là ne s'arrêtent pas là. Non, parce que vous allez pouvoir faire avec Snip un partage beaucoup plus simple qu'avec les autres applications de partage sur Windows, les autres applications d'imprime écran sur Windows. Vous allez pouvoir la partager automatiquement sur Facebook et la partager par courriel. En tous les cas, le bouton partage est très, très bien simplifié. L'autre avantage de cette application-là sur Windows 10, c'est qu'elle est gratuite. Alors, allez-y, vous ne risquez rien. C'est une très belle application faite par Microsoft. Et puis, pour le moment, elle est gratuite en version bêta. Allez essayer ça, c'est assez cool.
Ben voilà, ça faisait le tour un petit peu de l'émission cette semaine. Je voudrais remercier un peu tout le monde qui m'aide à réfléchir, qui m'aide à trouver des sujets intéressants, qui m'aide à, qui échange avec moi sur le fil Twitter, pour lequel vous pouvez me rejoindre, @profduweb, vous pouvez me rejoindre sur Twitter. C'est vraiment le meilleur endroit et le seul et l'unique, le plus parfait pour moi pour échanger de l'information. Désolé pour les soucis de son des derniers épisodes, même de cet épisode-ci. J'ai pas tout le temps le bon endroit pour enregistrer mes capsules. Je vais essayer d'améliorer ça, tout en vous relayant des bonnes capsules. Et puis, ben oubliez pas d'aller mettre un 5 étoiles sur iTunes, d'aller mettre des notes super bonnes sur PodCloud, d'aller mettre d'échanger, de partager. Ça, c'est toujours la magie du podcast indépendant. Et surtout, continuez à en écouter. Allez, ciao, ciao, bye bye. On se retrouve dans 2 semaines.